Merci Paul, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Chapitre 11 et le verset 10, et c'est à la page 13 dans les Bibles d'Église, les Bibles turquoises, que vous trouverez sur les bancs. Genèse 11, verset 10, et nous lirons jusqu'au chapitre 12, verset 3. Lisons ensemble. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpakshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpakshad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpakshad eut pour fils Shelash. Arpakshad vécut 403 ans après la naissance de Shelash. Et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shelash eut pour fils Héber. Shelash vécut 403 ans après la naissance d'Héber, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Peleg. Héber vécut 430 ans après la naissance de Peleg, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Peleg eut pour fils Réu. Peleg vécut 209 ans après la naissance de Réu, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Serug. Réu vécut 207 ans après la naissance de Serug, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Serug eut pour fils Nachor. Serug vécut 200 ans après la naissance de Nachor, et il eut des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nachor eut pour fils Terach. Nachor vécut 119 ans après la naissance de Terach, et il eut des fils et des filles. Terach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Voici la lignée de Terach. Terach eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père Terach, dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa petite-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Il avait le libre choix d'un texte et il a choisi une généalogie. Bon. La question qu'on va se poser ce matin, c'est d'où viendra l'espoir? D'où viendra l'espoir? Depuis septembre à l'église Saint-Lazare, nous étudions le livre de la Genèse et nous avons commencé au début et continué. Et la série se termine avec ce passage, le passage que je vous propose de méditer ce matin. Et dans l'ensemble, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont plutôt sombres. Ça commence bien, avec la création d'un monde beau et plein de potentiel, mais ensuite l'humanité se rebelle contre Dieu, et la suite, eh bien la suite devrait porter la mention interdite aux moins de 18 ans. Il est question de péché, de jugement, de meurtre fratricide, de mort, de l'anéantissement quasi total de l'humanité par le déluge, de rechute dans le péché, de nouveau du jugement. En fait, juste l'autre soir, quelqu'un de notre église me posait des questions sur les livres qu'on a prévu d'étudier l'année prochaine, et j'ai dit qu'une des séries de prédications portera sur le livre de l'Ecclésiaste. La personne m'a répondu, l'Ecclésiaste ? Mais on n'est pas déjà assez déprimé après la Genèse ? Jusqu'à ce passage dans la Genèse, l'histoire est plutôt sombre. Et ça pose la question, d'où viendra l'espoir ? D'où viendra l'espoir ? Et c'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes. J'imagine que dans une assemblée de cette taille, il y a toutes sortes de situations qui font qu'on se demande l'espoir, où le trouver ? Peut-être en raison d'un problème de santé, peut-être à cause de soucis professionnels ou relationnels, peut-être parce qu'on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants, d'où viendra l'espoir ? Et le but de ce passage est de nous montrer que baser nos espoirs sur ce monde et ce qu'il peut nous offrir conduira toujours, tôt ou tard, à la déception. Baser nos espoirs sur ce monde et ce qu'il peut nous offrir conduira toujours, tôt ou tard, à la déception. L'espoir véritable et durable ne peut pas venir de ce monde. Non pas qu'il n'y a rien de bon à avoir ici, dans ce monde, mais plutôt que si on base nos espoirs ultimes sur ce monde, si on espère trouver la sécurité, la stabilité et la satisfaction dans les choses que ce monde nous propose, carrière, confort, conditions physiques, pour n'en citer que quelques-unes, on finira toujours par être déçu. Ce monde est incapable de tenir ses promesses. Et ce texte est là pour qu'on soit au clair là-dessus. Mais en même temps, et peut-être surtout, il est là pour nous convaincre de placer nos espoirs dans ce que Dieu promet de faire. Ce passage, c'est un des grands tournants de la Bible. Je pense que s'il fallait citer le top 5 des moments les plus importants de la Bible, ce qui est raconté dans ce passage devrait absolument faire partie de la liste. Nous avons ici une première promesse d'espoir. C'est un texte qui nous invite à nous appuyer pleinement sur la promesse de Dieu d'un nouveau monde, un monde guéri. Un monde où nos besoins seront comblés et notre épanouissement garanti. Voilà la promesse que Dieu fait dans ce passage. D'où viendra l'espoir ? Alors, deux points, pas de ce monde, car il est toujours brisé, mais de Dieu qui promet un nouvel Éden. Premièrement, la première chose qu'on apprend, c'est donc que placer nos espoirs dans ce que ce monde peut nous offrir conduira toujours, tôt ou tard, à la déception, parce que notre monde est toujours brisé. C'était le journaliste Jean-Baptiste Alphonse Karr, un journaliste au Figaro au XIXe siècle, qui a écrit une phrase qui est devenue une expression française bien connue, « Plus ça change, plus c'est la même chose ». Et c'est ça l'impression que nous avons en lisant le début de ce passage. L'histoire avance, les générations se succèdent, mais plus ça change, plus c'est la même chose. Relisons ensemble à partir du verset 1. Voici la lignée de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpakshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpakshad 500 ans, il engendra des fils et des filles. Arpakshad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpakshad vécut après la naissance de Shéla 43 ans. Il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance de Héber 403 ans. Il engendra des fils et des filles, etc., etc. Ici, on a la liste des descendants d'un des fils de Noé, Sem. Noé a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japhet. Voici la généalogie de Sem. Et sans enlever quoi que ce soit à son caractère inspiré, soyons honnêtes, ce n'est pas la lecture la plus passionnante qui soit. C'est répétitif, c'est monotone, ce sont des noms qu'on ne reconnaît pas pour la plupart. Qu'est-ce qu'il est censé nous dire ? Et non seulement il est répétitif et monotone, l'auteur de la Genèse nous avait déjà donné une généalogie de Sem dans le chapitre précédent. Si on revient une page en arrière, chapitre 10 et le verset 21, on lit « Il naquit aussi des fils à Sem », et puis on a leur nom. Donc pourquoi une nouvelle liste dans le passage d'aujourd'hui? Pourquoi ce doublon? Et surtout que celle-ci est assez peu informative. Les personnes citées, Arpakshad, Shelah, Eber, on n'apprend pas beaucoup sur elles. On ne connaît pas leur personnalité, ce qu'elles ont fait de leur vie, ce qu'elles ont accompli. On a simplement leur nom, le nom d'un de leurs enfants, l'âge auquel ils ont eu cet enfant et le temps qu'ils ont vécu après. À part ça, le texte est silencieux. C'est un peu comme les noms qu'on voit dans les crédits à la fin d'un film. On les lit, deuxième assistant maquillage, troisième assistant lumière, et puis on les oublie tout de suite. Désolé si c'est là votre métier. Ils apparaissent, ils disparaissent, on les oublie. Et non seulement le texte est monotone et peu informatif, si on a suivi la Genèse depuis le début, on a un sentiment de déjà-vu, parce qu'on a l'impression de relire le chapitre 5. Voici un extrait de notre passage au chapitre 11, les descendants de Sem. Et voici un extrait du chapitre 5, les descendants d'Adam. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a quelques petites différences sur la forme, les noms ne sont pas les mêmes, mais sinon ça ressemble beaucoup. Des personnes qui naissent, qui font des enfants et qui meurent. Pourquoi donc, avant un des grands moments de la Bible, l'appel d'Abraham, avons-nous dans le chapitre 11 un texte avec apparemment si peu de choses nouvelles et intéressantes à nous dire? Pourquoi un texte aussi silencieux et peu informatif? Pourquoi Dieu a-t-il voulu mettre ce passage dans la Bible? Et si ce silence, c'était en fait l'idée principale? Et si c'était justement ça qu'il fallait remarquer ici? Il n'y a simplement plus rien à dire sur l'humanité à ce stade dans la Genèse. Tout ce qui avait besoin d'être dit sur notre situation et notre sort a déjà été dit dans les 11 premiers chapitres. L'homme a été créé par Dieu, l'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a dû subir les sanctions imposées par Dieu, dont le fait de mourir. Même l'homme le meilleur, Noé, échoue, les hommes se retrouvent divisés et éparpillés sur la terre. Voilà l'humanité en 15 secondes, selon le début de la Genèse. Nous naissons, nous péchons, nous mourons. Et donc, en arrivant au chapitre 11, il n'y a juste plus grand-chose à dire. On a déjà fait le tour de la question, qu'est-ce que l'homme? En fait, la seule chose que l'auteur semble vouloir mettre en avant ici, c'est le fait que les sanctions imposées par Dieu à cause du péché sont toujours là. Je vous invite à revenir quelques pages en arrière dans nos Bibles, à Genèse 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. C'est à la page 6. Genèse 3, verset 17. Écoutez ce que Dieu dit juste après la faute d'Adam et Ève. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Quand Adam et Ève pêchent, se rebellent contre Dieu, Dieu réagit en maudissant la terre et en rendant notre existence ici pénible et en nous privant de l'immortalité pour laquelle nous avions été créés. Désormais, nous vivons dans un monde brisé à cause du péché. Et si nous revenons au chapitre 11, nous pouvons le voir. Je vous invite à regarder la durée de vie des personnes dans cette liste au chapitre 11. Elle nous paraît très longue, et ces chiffres, personnellement, je suis persuadé qu'on doit les prendre littéralement. Tout le monde ne serait pas D'accord, mais c'est mon avis personnel. Mais quoi qu'il en soit, regardez l'évolution des durées de vie dans ce passage. On commence avec Sem, qui vit 600 ans en tout. C'est pas mal. Mais ensuite, on a Arpakshad, qui ne vit que 438 ans. Au verset 18, Peleg meurt à 239 ans. Et Nachor, au verset 24, ne vit que 148 ans. Ça nous paraît très long, mais la tendance est clairement vers le bas. La mort gagne du terrain. La sanction imposée par Dieu est bel et bien présente. Et là où le chapitre 5 précisait pour chaque personne dans la liste, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, dans le chapitre 11, ce n'est plus mentionné. La mort est prise pour acquise. Il y a des morts, entre guillemets, précoces. Regardez les versets 28. Haran, le frère d'Abraham, meurt en présence de son père, Terach. Une mort avant l'heure. Un père enterre son fils. Et enfin, il y a comme un air de futilité qui plane sur toute cette liste. Tout ce que chacun laisse derrière lui, même s'il vit très longtemps, c'est son descendant. Tout le reste est oublié. Les réussites professionnelles, les expériences vécues, le patrimoine accumulé, tout passe, tout casse, tout lasse. C'est un avertissement pour nous. Il y a plusieurs personnes à l'église Saint-Lazare qui ont ou qui veulent créer une entreprise. Super, si ça leur permet de nourrir leur famille. Mais on doit leur rappeler que c'est assez peu probable que dans un siècle, par exemple, cette entreprise existe encore. Il y a toutes les chances pour qu'elle soit tombée dans l'oubli. En fait, il y a toutes les chances pour que nous-mêmes, nous ayons été oubliés dans un siècle. Qui ici se souvient des prénoms de ses arrière-grands-parents? Pas moi. Notre monde est marqué par la futilité. Pourquoi? Parce qu'il est toujours brisé. Toujours sous le coup de la malédiction à cause du péché. Et nous l'expérimentons tous de diverses manières. Le maître au boulot, dodo, si souvent usant, est-ce que ça vous lasse? Est-ce que ça vous pèse parfois? J'imagine que oui. Les petites frustrations banales, mais pénibles du quotidien, le bus que je rate de 2 secondes qui m'oblige à attendre une demi-heure le suivant, la carte bancaire avalée par le distributeur, etc. Il y a nos échecs et nos déceptions, des projets qui nous sont chers, qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde brisé. Et enfin, il y a les grandes souffrances que nous pouvons vivre. Ces moments où on se demande, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Et même quand les choses vont bien, même au sommet, l'euphorie ne dure pas. J'ai lu un article récemment sur le nombre de sportifs de haut niveau qui tombent dans la dépression, non pas après leurs échecs, mais après leur réussite. Tous ces efforts pour enfin être au sommet, et puis une impression de vide. Les signes de la malédiction sont partout. L'histoire avance, les générations se succèdent, mais plus ça change, plus c'est la même chose. Notre monde est toujours brisé. J'ai entendu parler d'un homme d'affaires qui a fait fortune en créant son entreprise et qui a tellement bien réussi qu'il a pu tout vendre et prendre sa retraite à l'âge de 40 ans pour aller s'installer dans une villa au Portugal à côté d'un terrain de golf. La belle vie. 2 semaines après son arrivée, on l'a retrouvé mort dans sa cuisine d'une crise cardiaque. Tout ça pour ça. Bienvenue sur la planète Terre. Notre monde est toujours brisé. Et l'auteur de la Genèse nous confronte à cette réalité-là, non pas pour nous déprimer, mais pour éviter que nous placions nos espoirs dans des choses qui finiront toujours par décevoir. Non pas que la vie dans ce monde ne sera toujours que des misères. Je suis sûr que Arpakshad, Shelah et Heber ont profité de l'un ou l'autre bon repas ou des bonnes vacances de temps en temps. Il ne s'agit pas de tout voir en noir. Mais si on place nos grands espoirs pour notre avenir dans les choses de ce monde, si on organise notre vie autour de ces choses-là, on finira inévitablement par être déçu. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Est-ce que nous sommes simplement voué au cynisme? Eh bien non. Dieu merci, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et c'est notre second point. Dieu promet un nouvel Éden. On raconte une anecdote à propos de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Alors Steve Jobs voulait recruter le chef de Pepsi, John Sculley, pour venir le rejoindre. Et John Sculley résistait à ses sollicitations. Et puis un jour, Jobs lui a posé la question qui a tout changé. « Veux-tu vraiment vendre de l'eau sucrée pour le reste de ta vie ? Ou est-ce que tu veux venir avec moi et changer le monde ?» On peut se demander si l'iPhone a vraiment changé le monde pour le mieux, mais à un niveau infiniment supérieur, c'est un peu le sens de l'appel que Dieu adresse à Abraham. Est-ce que tu veux continuer à courir après des choses qui finiront par décevoir, ou est-ce que tu veux faire partie de mon plan pour changer le monde? Et donc l'encouragement de ces versets, les trois premiers versets du chapitre 12, sont simples. Et simples. Arrêtons de fonder nos espoirs pour l'avenir sur les choses de ce monde. Plaçons-les au contraire dans ce que Dieu promet de faire, c'est-à-dire d'établir un royaume parfait dans un nouveau jardin d'Éden. Lisons le début du chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y a pas eu beaucoup de lueurs d'espoir jusqu'ici dans la Genèse. Mais il y en a au moins eu une, quelques chapitres avant. Dieu avait annoncé qu'il y aura un homme qui écrasera la tête du serpent, de Satan. Un descendant d'Ève qui va défaire les effets de la chute, c'est-à-dire notre rébellion contre Dieu. Et plusieurs candidats sont présentés. Il y a d'abord les enfants d'Adam et Ève, Cain et Abel, et puis l'un assassine l'autre, et tous les deux sont disqualifiés. Ensuite, il y a Noé, qui paraissait assez prometteur, jusqu'à ce que lui aussi pêche et se disqualifie. Et enfin, on arrive à Abraham, qui a priori paraît un très mauvais choix. Il adore d'autres dieux, peut-être le dieu de la lune, c'est la suite de la Bible qui nous le dit. Sa femme Sarai est stérile, donc elle n'est pas en mesure de faire durer sa lignée. Et même si Sarai pouvait avoir des enfants, Abraham a 75 ans. Ça commence peut-être à devenir un peu juste pour lui. Abraham paraît un mauvais candidat. Mais Dieu voit les choses autrement. C'est un peu comme dans la télé-réalité. Je ne regarde pas spécialement la télé-réalité, mais une thématique récurrente dans les émissions de télé-réalité consiste à prendre une personne ordinaire et à faire d'elle une star. La personne elle-même n'est pas spécialement exceptionnelle, c'est les producteurs derrière l'émission qui choisissent de faire de cette personne une star. Et s'il devient célèbre, c'est grâce à l'émission, pas à elle-même. Sans forcément vouloir faire la promotion de la télé-réalité, c'est similaire ici. Dieu prend l'initiative d'appeler un homme qui, a priori, n'a rien d'exceptionnel et décide de faire de lui un personnage central dans son plan pour secourir le monde. Abraham doit quitter sa patrie et ses proches et partir vers le nouveau pays que Dieu va lui montrer. Et à partir de là, c'est Dieu qui s'occupera du reste. Quand le texte a été lu, je ne sais pas si vous avez remarqué la répétition du mot « je » dans le message que Dieu adresse à Abraham. Il s'agit du pays que je te montrerai. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu prend la situation en main. Il s'engage unilatéralement, sans condition, pas parce qu'Abraham est particulièrement bon, pas parce qu'il mérite quoi que ce soit, pas parce qu'il a des qualités particulières, simplement parce que Dieu a choisi d'intervenir. Parce que jusqu'ici dans la Genèse, à chaque fois qu'il revenait à l'homme de tenter d'améliorer sa situation, ça a été l'échec. Donc Dieu annonce, à moi maintenant, de régler les choses. Je prends la situation en main. Et ça veut dire que ce que Dieu annonce ici, ça va se réaliser. C'est une promesse. Et regardez ce qu'il promet. Il y a, je pense, quatre éléments. que je voulais afficher, mais que je ne vais pas pouvoir afficher. C'est pas grave. Quatre éléments. Pays, peuple, privilège, planète. Pays, peuple, privilège, planète. Dieu va donner, et chacun de ces quatre éléments correspond à quelque chose qui a été perdu à cause de la chute. Dieu va donner un pays à Abraham dans lequel ses descendants habiteront. Il va les multiplier pour qu'ils deviennent une grande nation, un grand peuple. Il s'engage à bénir Abraham, à rendre son nom grand et à le protéger. Il lui accorde des privilèges. Et tout ça pour le bien ultime de toute personne partout sur la planète. Toutes les familles de la terre seront bénies grâce à Abraham. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a expulsés du lieu de sa présence, le jardin d'Éden. Mais ici, Dieu promet un nouveau lieu, un nouveau pays où on habitera avec lui. Adam et Ève avaient été condamnés à mourir, et tous leurs descendants aussi. Mais ici, Dieu promet de faire d'Abraham un grand peuple grâce à qui son nom subsistera après sa mort. La chute avait rompu notre communion avec Dieu. Mais ici, Dieu promet de restaurer ses privilèges en promettant la bénédiction. Et enfin, là où les hommes se sont divisés et dispersés sur la terre, Dieu commence ici un plan de sauvetage pour toute la planète. C'est comme si depuis le début de la Genèse, on était dans un tunnel obscur et déprimant, et là enfin, on sort pour retrouver la lumière du jour. Dieu promet un nouvel Éden. Enfin, on peut sourire. Vous connaissez peut-être la célèbre chanson de John Lennon, Imagine. Elle est surtout connue comme une attaque contre la foi en Dieu, mais sans le savoir, Lennon était en fait en train de parler des promesses de Dieu à Abraham. Quelques citations. Imaginez tous les peuples vivant leur vie en paix. Aucun besoin d'avidité ou de faim, une fraternité humaine. Imaginez tous les peuples se partageant le monde. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et que le monde vivra uni. Lennon rêvait du paradis sur Terre, et si on pense qu'il était juste un rêveur, on constate que ce type de langage utopique ressort à chaque élection présidentielle. L'année dernière, Jean-Luc Mélenchon promettait un avenir en commun, Emmanuel Macron que la France doit être une chance pour tous. Et ces désirs d'un monde meilleur sont ancrés en nous. L'erreur, c'est de penser qu'on peut y arriver par nos propres moyens. Dieu seul peut promettre un nouvel Éden. Et c'est ce qu'il promet ici. Et cette promesse fixe la trame pour tout le reste de la Bible. Chaque fois qu'on lit la Bible, on peut se demander où est-ce qu'on en est au niveau de cette promesse, pays, peuple, privilège, planète. En fait, on pourrait faire un test, on pourrait ouvrir une Bible à une page choisie au hasard. Où est-ce que nous en sommes au niveau de pays, peuple, privilège, planète? L'Exode. Il y a un peuple, mais ils ne sont pas encore dans le pays, ils n'ont pas encore tous les privilèges, et le reste de la planète n'est pas encore en vue. Sous le roi David, il y a un peuple, et David se bat pour le pays et les privilèges, on attend de voir pour les autres nations. Quand Jésus arrive, il est question d'un nouveau pays, céleste cette fois-ci, pour un nouveau peuple, avec des privilèges garantis par sa mort à la croix, et enfin, toute la planète est appelée à croire en lui. Et comment est-ce que la Bible se termine? S'il vous plaît, venez avec moi à l'avant-dernière page de la Bible, Apocalypse 21. Apocalypse 21, c'est à la page 1418. Apocalypse 21. Regardez le verset 1. Quel est le pays que Dieu nous donne? Il s'agit d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Verset 3. Le peuple. Dieu dit qu'il habitera avec eux et ils seront son peuple. Verset 4. Regardez les privilèges de ceux qui auront placé leur confiance en la promesse de Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Si on avance jusqu'au verset 26, sur la page en face. Toute la planète est concernée. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Voilà ce que Dieu va faire. Ça commence ici avec Abraham, et cette promesse est pour nous, si comme Abraham, nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors je me demande quel est l'impact de cela sur nous. Je ne pense pas exagérer en disant que nous vivons à un moment de l'histoire où il y a des grandes incertitudes concernant l'avenir du monde. Il y a la question du climat. Plus que 2 ans pour sauver la planète, disait une étude il n'y a pas longtemps. Il y a l'état de la politique. Est-ce que les tensions entre les pays vont s'aggraver? Est-ce qu'il y aura de nouvelles guerres? On espère que non. On ne sait pas. Et tout comme il peut y avoir des incertitudes à grande échelle, on connaît souvent des incertitudes au niveau personnel. Comment va évoluer ma situation professionnelle, ma santé, ou la santé de mes proches? Est-ce que je vais pouvoir fonder une famille? Est-ce que ma vie se déroule comme je l'aurais souhaité? Et même si les choses vont bien, est-ce que ça va continuer à bien aller? On ne peut jamais en être sûr. Mais ce qui est 100% sûr, c'est sa promesse d'un nouvel Éden. Sa promesse qu'un jour, son peuple, venu de partout sur la planète, sera avec lui dans le monde guéri qu'il aura préparé. Et Dieu nous annonce ces choses pour qu'on s'appuie dessus. Depuis que nous avons implanté l'église à Saint-Lazare, nous avons rencontré des personnes d'arrière-plan très divers. Des personnes très aisées, des personnes qui vivent dans la précarité, des personnes entourées d'une grande famille, des personnes qui sont seules, des personnes très cultivées, des personnes plus simples, comme le pasteur. Mais quelle que soit sa situation, on a tous besoin d'espoir et de sécurité. On a tous besoin de quelque chose auquel s'accrocher. Au cours des 12 derniers mois, deux jeunes hommes de notre assemblée ont perdu leur père. Une jeune femme a appris que son père et son frère avaient tous les deux un cancer. D'autres viennent de situations familiales compliquées. La frustration de vivre dans un monde brisé, tout le monde la connaît. Riche ou pauvre, jeune ou âgé. Mais Dieu nous présente ses promesses pour nous rassurer que quoi qu'il nous arrive, il y a la perspective certaine d'un monde meilleur. Un monde guéri, sans les frustrations et les épreuves de celui-ci. Et il veut qu'on soit prêt à tout miser là-dessus. À miser, pour employer du jargon de poker, il ne joue pas au poker, mais à miser tous nos jetons sur ce projet-là. Abraham devait tout quitter pour aller vers le pays que Dieu a promis de lui donner. Il a dû radicalement réorganiser sa vie pour se concentrer sur cette promesse. Et nous aussi, nous sommes appelés à organiser notre vie autour de ce que Dieu promet. Je pense à une personne qui a choisi de mettre son réveil un quart d'heure plus tôt le matin pour pouvoir méditer tous les matins sur les promesses de Dieu. On pourrait faire la même chose. Je pense à d'autres personnes qui ont opté pour un travail moins bien payé, mais avec des horaires moins lourds, pour avoir le temps de s'engager dans leur église pour aider d'autres personnes à méditer sur les promesses de Dieu. On pourrait décider de passer du temps tous les jours avec nos enfants autour de la Bible pour les aider à comprendre les promesses de Dieu. Je pourrais choisir de ne pas utiliser mon salaire pour viser un niveau de confort maximal qui n'existe pas de toute façon, parce que je préfère soutenir la proclamation de la bonne nouvelle à Paris et ailleurs. Et je pourrais saisir les occasions que Dieu me donne d'être un porte-parole de cette promesse d'espoir. Toutes des manières d'organiser notre vie autour de la promesse de Dieu. Il faut conclure. D'où viendra l'espoir? Notre société aimerait nous convaincre que c'est de l'enrichissement ou de la réussite ou d'un changement de situation. Mais ne soyons pas dupes. Dans un monde qui est toujours brisé, la futilité et les frustrations de ce monde finiront tôt ou tard par nous rattraper. Non, notre espoir vient seulement de la promesse de Dieu d'un nouvel Éden. Sommes-nous prêts à bâtir notre vie là-dessus? Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci parce que notre monde n'est pas sans espoir. Mais nous reconnaissons que le seul espoir est celui qui vient de toi. Merci parce que tu ne nous maintiens pas dans l'illusion qu'on peut s'en sortir tout seul par nos propres moyens. Merci parce que tu nous permets d'avoir cette lucidité sur l'état d'un monde déchu, déréglé, brisé à cause de notre rébellion. Et merci parce que malgré tout cela, tu es un Dieu qui t'engage unilatéralement en promettant un nouveau monde avec toi, sous ta bénédiction, pour toute personne partout sur la planète qui aura placé sa confiance en toi. Et on veut te demander, Père Céleste, que cette perspective-là puisse être comme l'encre qui nous donne la stabilité, la perspective qui nous réjouit tous les jours, ce à quoi on peut s'accrocher quand les choses sont difficiles, et la perspective qui guide tous nos choix dans notre vie. Aide-nous à, comme Abraham, organiser notre vie, orienter notre vie autour de ta promesse. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.